Hello les distordus! Si vous aimez Distorsion, vous allez sans aucun doute adorer le balado Dérive disponible sur Radio-Canada Audio. Tout comme nous, le pharmacien et vulgarisateur scientifique Olivier Bernard adore démystifier des phénomènes scientifiques et dans la troisième saison du balado Dérive, intitulé « Les secrets de la mafia médicale », Olivier étudie le parcours de ces scientifiques qui ont défendu des idées marginales ou même dangereuses et dévoile leur impact méconnu sur la société. Le tout en s'appuyant sur l'histoire incroyable du chanteur québécois Bernard Lachance, décédé du sida en 2021, maladie dont il niait l'existence. Personnellement, j'ai dévoré le balado d'un bout à l'autre en un week-end, rivé à mes écouteurs. Dérive ainsi que plusieurs autres balados pour tous les goûts, dont plusieurs balados d'enquête et de mystère, sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Téléchargez dès maintenant l'appli Radio-Canada Audio sur les plateformes Apple ou Android. Bonne écoute!
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
There's a group of very dangerous individuals out there, and I really would like to detail what they did to me and mine. I want to warn people away from them. These people are dangerous. This is not a joke.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
Permettent de vivre des expériences immersives qui vont au-delà de la vie réelle. Il arrive parfois que le fanatisme envers un jeu vidéo ou tout autre univers imaginaire mène à des excès et à des abus de toutes sortes.
C'est ce qu'a vécu un petit groupe de passionnés de Final Fantasy au début des années 2000, alors qu'ils ont décidé de vivre leur passion tous ensemble dans une même maison.
L'histoire qui suit est incroyable et surréelle. Et encore aujourd'hui, les internautes tentent de comprendre ce qui s'est réellement passé dans cette maison.
Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien parce que vraiment, le sujet de ce soir, c'est quelque chose.
Oui, quand même.
On s'est plongé là-dedans. On va être honnête avec vous. On avait d'autres plans. On pensait faire un épisode sur un tout autre sujet.
Oui, vraiment.
Mais on est tombé là-dessus cette semaine. Puis on s'est dit, non, il nous reste deux épisodes à notre saison 4. C'est clair qu'il faut parler de la Final Fantasy House à nos distordus parce que vous allez voir... Il y a beaucoup de rebondissements. Encore aujourd'hui, il y a un gros mystère qui tourne autour de ça. Vous allez voir, on veut pas trop vous en dire, mais vous allez être assez... Je pense que vous allez être accrochés parce que c'est une histoire qui est très, très surprenante.
Oui, vraiment. Puis c'est, on n'était pas capable d'attendre jusqu'à la saison 5 pour en parler parce que le plan initial, c'était ça. On s'était dit, quand on l'a trouvé, on va en parler juste à la saison 5, mais on pouvait pas en rester là. Sincèrement, vous allez être sur, comme on dit au Québec, vous allez être sur votre cul. Sincèrement, plus on avançait dans la recherche, parce que ça n'a pratiquement pas été couvert par les médias.
Très peu.
Il a fallu vraiment faire beaucoup de recherches à travers Reddit et YouTube, etc. Et à chaque fois que j'avançais, à chaque fois qu'on avançait, il y avait toujours un autre élément. C'est un des cas qui a le plus de rabbit hole.
Oui.
Enfin, comme le Lake City Quiet Pills, qui est un peu dans le même genre.
Key Lime Pie.
Oui, exact. Mais ce cas-là aussi. Et tout ça, dites-vous, par contre, c'est toujours, tout est basé sur des témoignages en ligne. T'sais, on n'a pas la véritable certitude que tout ça est vrai.
Exactement.
Mais il y a tellement de témoignages que je peux pas croire que ce n'est qu'une légende urbaine, en fait.
Pour vous résumer, en fait, au début des années 2000, il y a eu un jeu vidéo Final Fantasy VII là, qui a fait un malheur partout sur la planète. Mm-hmm. Et il y a un petit groupe de gens qui se sont réunis dans une maison aux États-Unis afin de vivre cette passion-là, afin d'échanger sur les personnages, afin de jouer tous ensemble, de faire des jeux de rôle et tout ça, ce qui est assez inoffensif, ce qui n'a rien d'extraordinaire en soi. Par contre, cette maison-là où il y avait énormément de gens qui étaient de passage... a vécu toutes sortes d'abus. C'est même devenu une genre de mini-secte à un certain moment. Et encore aujourd'hui, ces gens-là sont difficiles à trouver. Ils auraient même amené cette philosophie de secte et d'abus vers d'autres univers là, qui vont au-delà de Final Fantasy, d'autres fandoms, si on veut. Là. Par ailleurs, j'ai pas trouvé de traduction française pour fandom. Je sais qu'on parle de fanatisme parfois, mais j'étais pas trop à l'aise avec ce mot-là. En fait, c'est un peu la le culte. Fandom, c'est un peu le culte que des gens vont vouer à un univers. Il y en a qui, par exemple, ça va être dans ce cas-ci Final Fantasy VII, mais on va le retrouver aussi pour les Pokémon, par exemple, ou Marvel, Zelda, Nintendo, tout ça. Ça n'a rien de mal en soi, mais aujourd'hui, on va voir qu'il y a un côté là, sombre au fandom et ça peut mener très loin. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous allez voir, vous allez être surpris. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, cet épisode-là, Bonne Seb, question. Parce qu'on a énormément d'infos. Si on se rend compte que c'est trop long, peut-être qu'on fera un mini-disto, mais on va quand même se lancer. Et pour passer au travers de ça, on est dans une journée de tempête aujourd'hui. Au Québec, qu'est-ce qu'on boit, mon cher Seb?
Oui, on boit la 30 Richer Maltais de la brasserie Aricana. C'est une bière qui est quand même assez forte, je vous dirais.
Oui.
Elle a été inspirée par les 30 ans de Francis Richer, qui est leur brasseur en chef. Elle a un assemblage wild. Elle est barriquée, fumée, riche et maltée. Et tout ça pour accompagner, c'est un bon 9% d'alcool.
Oui.
C'est moins on a moins l'habitude de boire ce genre de bière-là, Émile et moi, mais c'est une très bonne bière, je vous dirais, qui a vraiment un goût cuivré, même, en bouche.
Très sirupeuse, des goûts de caramel, quand même, et très agréable. Cette journée froide, c'est l'idéal pour ça.
Oui, c'est parfait pour une tempête. Et cette bière-là, elle nous a été offerte par Alain, via notre site et la tournée de bière. Merci à toi, Alain, pour cette bière. Si vous voulez faire comme Alain, bien sûr, vous savez, vous allez sur l'onglet tournée de bière sur notre site distorsionpodcast.com. Merci à toi, Alain. Comme à l'habitude, on trouve nos bières qu'on vous parle dans l'épisode au Biérologue qui est situé sur la rue Ontario dans le secteur Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, le meilleur endroit en ville pour vous trouver de la bonne bière et du vin aussi. Ils ont plein de vins québécois et bio.
On a aussi un shout-out 5 étoiles sur Apple Podcasts qui nous vient de G. Pesant, qui nous dit « Univers captivant. J'ai toujours été une fan d'émissions d'enquête et de sciences judiciaires. Par contre, le balado de distorsion m'amène dans un tout autre univers où numérique, mystère et histoire sordide s'entremêlent. Je suis accro d'un bout à l'autre de votre balado et de sa communauté. » Ben, merci à toi, G. C'est pour des gens comme toi qu'on fait le show. Et merci de nous donner un 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Et on a encore une tournée de viande aujourd'hui, Seb.
Oui, on a la tournée de viande de Ma Boucherie en ligne.ca qui vous offre de la viande que vous pouvez commander en ligne à travers la province de Québec. Vous commandez une semaine après, vous recevez votre viande. Vous pouvez utiliser le code promo distorsion qui va vous donner 5% de rabais lors de votre première commande de viande. Donc, allez visiter maboucherieenligne.ca.
Des bons produits locaux. Jusqu'à date, tout ce que j'ai cuisiné était très, très délicieux.
Ah, c'était délicieux, sincèrement.
Je pense qu'on a tout dit, Seb. Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'histoire sordide de la maison Final Fantasy?
Oui, monsieur.
C'est parti. Autour des années 2000, Jen et René, un couple marié de gamers aux personnalités bien différentes, habitent dans un appartement d'une petite banlieue de Pennsylvanie. Jen est sociable et charismatique, tandis que René est plus introverti et discret. Malgré leurs différences, les deux cultivent une passion très poussée sur l'univers des jeux vidéo, et plus particulièrement le jeu Final Fantasy VII, qui a été un succès monstrueux au début des années 2000. Non seulement ils sont de grands joueurs du jeu, mais en plus, ils font du cosplay, c'est-à-dire qu'ils se costument afin de personnifier les personnages du jeu dans les conventions. Moi, Seb, j'ai eu quand même plusieurs expériences travaillant un peu dans l'industrie du jeu vidéo. J'ai eu la chance de côtoyer plusieurs passionnés, là, des fans qui justement font du cosplay et qui vont incarner des personnages de jeux vidéo. Puis en fait, moi, j'ai eu la chance d'assister à des conférences là, comme la Gen Con à Indianapolis, où en fait, il y a des centaines de milliers de gens qui arrivent costumés et puis qui reprennent les univers de Donjons et Dragons, de Magic the Gathering, d'univers comme ça. Ça. Et c'est assez particulier. Moi, de mon côté, j'ai toujours trouvé que c'était très créatif. On voit que c'est des gens qui mettent beaucoup d'efforts à fabriquer leurs costumes. Et c'est bien, en fait, que de nos jours, il y ait un peu, il y a des endroits pour les gens comme ça pour leur permettre de s'exprimer.
Oui, vraiment.
Moi, je comprends un peu cet aspect-là de vouloir vivre l'imaginaire d'un univers riche comme d'un jeu vidéo ou d'un film ou quelque chose comme ça. Je suis même allé à la Gamescom qui est à Cologne en Allemagne et là c'est immense. En fait, il y a le cosplay village qu'on appelle, donc qui est carrément un étage du centre des congrès et là il y a vraiment des dizaines de milliers de gens qui vont se déguiser, qui vont faire même des parades.
Wow.
Donc c'est essentiellement inoffensif, je dirais, comme pratique. Et puis maintenant, c'est de plus en plus courant là, de voir des gens personnifier des personnages.
Ouais,
c'est aussi des endroits, ces conventions-là, où, en fait, ces gens-là vont pouvoir, par exemple, recruter des nouveaux membres pour leur site. C'est des gens qui vont aimer, justement, maintenir des sites web sur des personnages particuliers, puis de même rassembler des créations d'artistes de la communauté et de gens qui vont même écrire des nouvelles ou des histoires inspirées du monde de ces jeux vidéo-là. Donc, j'ai quand même une expérience un peu particulière avec ce milieu-là. Par contre, c'est jamais allé aussi loin que l'histoire d'aujourd'hui.
Non, c'est clair. Puis il doit y avoir sûrement dans les distordus des gens qui trippent cosplay. Là.
Oui, évidemment.
C'est certain dans tous nos fans. Justement, s'il y en a qui en a déjà fait, qui voudraient partager des expériences, n'hésitez pas à le faire. Moi, c'est un univers aussi que je regarde toujours un peu de loin.
Oui.
Je suis fasciné par ça. Parce que je suis un peu comme toi. Moi, je suis pas, je me déguise pas et tout ça, mais j'aime cet univers-là. Je comprends les gens d'être passionnés par ça. Et c'est une belle passion, là, je veux dire, d'être dévoué comme ça. Et ça... Je trouve que ça laisse aller aussi un côté très, très créateur des gens.
Oui, oui, oui. Donc, ces gens-là étaient un peu des pionniers, je dirais, au début des années 2000.
Oui,
il y avait moins d'endroits, de forums, des DeviantArt, par exemple, des sites comme ça où on peut partager des photos de cosplay, des créations de fans. Il y en avait beaucoup moins là, au début des années 2000. Puis Final Fantasy VII était peut-être un des premiers grands jeux qui a inspiré ce type de fandom là, ou ce type de fanatisme là, d'une certaine façon. Je t'invite à nous en parler un peu d'ailleurs de ce jeu-là.
Oui, Final Fantasy qui était un super jeu qui est sorti en septembre 97 en fait en Amérique du Nord et c'est un jeu de style RPG là, les role playing game qui donne vraiment le contrôle aux joueurs du jeu via un personnage qui s'appelle c'est important ce que je vous dis là qui s'appelle Cloud Strife. En fait que le personnage est un ex-membre d'un groupe d'élite de super soldats qui est devenu mercenaire dans le jeu. Il est caractérisé par une coupe de cheveux là, des longs cheveux blonds en pique. Tout le monde a dû quasiment déjà voir cette image là avec une longue épée imposante, eux qui appellent l'épée broyeuse.
Oui.
Et je comprends pourquoi ils disent ça parce qu'elle est immense.
L'épée est vraiment démesurée par rapport aux bras et aux mains de Cloud, en fait.
Oui, vraiment. Faut, pour sa force, c'est drôle. C'est...
Oui.
Cette épée-là, en fait, elle appartenait avant à son ami Zach Fair. Et Zach, lui, lui a été légué par Angel, qui est son mentor. Ce jeu-là a été créé en exclusivité, bien sûr, pour la console PlayStation de Sony. Ce qui a fait vraiment son succès, c'est qu'elle combine vraiment des éléments mystiques avec un décor fantaisiste dans un univers qui est post-industriel. Et à cette époque-là, les graphiques étaient vraiment révolutionnaires.
Oui.
Pour avoir parlé à plusieurs amis qui ont joué à ce jeu-là, là, tout le monde m'a dit que l'aspect numéro un, outre le gameplay qui est intéressant, c'est vraiment l'aspect graphique et toutes sortes de mélanges d'univers qu'on n'avait jamais vu. La sortie nord-américaine de Final Fantasy VII a fait l'objet d'un énorme blitz marketing parce que ce jeu-là, à cette époque-là, n'était pas vraiment connu en Occident. Et ça a vraiment fonctionné. En fait, ils ont vendu plus de 11 millions d'exemplaires dans les années qui ont suivi son lancement. Il y a eu toutes sortes de spin-offs, là, des livres, des films. Et toujours 20 ans après sa sortie, Final Fantasy VII reste toujours très, très emblématique.
Dans le cas présent, non seulement Jen et René prennent plaisir à se costumer en les personnages de Final Fantasy, mais en plus, ils gèrent des pages Internet dédiées à des personnages précis de la série. Rappelons-nous que nous sommes aux environs de 2002, donc l'Internet est beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Il était beaucoup plus facile de posséder des noms de domaines qu'aujourd'hui.
Oui, non, c'est ça. Il y avait le nombre de noms de domaines disponibles dans le lot C'est vrai que c'était plus facile, en fait, parce que, comme vous savez, les noms de domaine doivent être uniques. Et au fil du temps, tout le monde en achetait. Il y a plusieurs entreprises et plusieurs individus, justement, qui achetaient les noms et c'était plus difficile. Donc, à l'époque, comme tu dis, on réussit vraiment à se procurer plusieurs variantes, toujours autour du thème de Final Fantasy.
Absolument. René était passionné par le personnage de Hojo, qui est un scientifique plutôt introverti dans la série, donc il possédait le domaine hojo.org. Jen, elle, était passionnée par le personnage de Genova, qui est une genre de sorcière vilaine, et elle maintenait un site spécialisé sur le personnage de Cloud, qui est le personnage principal de la série, qu'on peut voir sur la couverture. Ces sites sont des destinations primées par les fans de la série. On y trouve des dessins et plusieurs formes d'art créées par les fans. On y trouve aussi des histoires fictives écrites par les adeptes qui contribuent librement à extensionner l'univers de Final Fantasy. Ce genre de site est très important pour la communauté de joueurs et parfois même, les développeurs du jeu vont supporter les gens qui créent ces sites web. Moi, je me rappelle quand je travaillais sur différents jeux, évidemment, ça nous faisait plaisir lorsque des gens créaient des sites comme ça. Et souvent, on leur envoyait des graphiques exclusifs ou des choses qui peuvent les aider à peaufiner leur site.
C'était les influenceurs de l'époque, en
oui,
fait.
Oui, absolument. Tu as tout à fait raison. Quoique ce n'est pas le cas ici, là, en fait, Square ne supportait pas nécessairement les sites de René et Jen, parce qu'entre autres, ils étaient localisés aux États-Unis, puis Square est un développeur japonais, en fait.
Toujours en 2002, un autre internaute que nous appellerons Zach, on vous expliquera plus tard, maintient un site web de fans de Final Fantasy VII pendant ses études, dédié lui aussi à Cloud, mais aussi à un autre personnage secondaire, Zach. Voilà donc pourquoi nous le nommerons ainsi. Le personnage de Zach est enfin un NPC, c'est-à-dire un personnage non-joueur qui apparaît dans les scènes cinématiques du jeu. Il est un compagnon de Cloud, le personnage principal, et il meurt dès le début du jeu en tentant de protéger Cloud. Puisque l'internaute en question est un des seuls qui maintient un site sur le personnage de Zach, ce qui fait en sorte que son site atteint rapidement une grande notoriété auprès des fans de la série, à un certain moment, l'internaute se fait contacter par la personne qui maintient le site Hojo.org, qui est dédié au personnage du professeur Hojo dans le jeu. Ce qui est particulier, c'est que la personne s'exprime en tant que Hojo, comme si elle jouait le personnage fictif. On vous l'a dit plus tôt, la personne derrière ce site est René, qui vit avec Jen en Pennsylvanie. On l'appelle tout de suite Zach et on ne cessera de l'appeler ainsi au cours des échanges suivants. Au départ, les échanges sont surtout à propos du fandom de Final Fantasy VII, des personnages, des créations qui sont réalisées par la communauté. Mais à un certain moment, Zach met en ligne un dessin du personnage de Genova, qui est la vilaine, avec un petit texte racontant une histoire fictive liée au personnage. Hojo lui demande alors si cette histoire est un souvenir. Jack répond que non, qu'il l'a fabriquée de toutes pièces. Hojo devient offusqué de cette réponse et cessera de lui parler pendant plusieurs jours. Peu de temps après, Hojo contacte Zach en lui disant que sa femme, Jen, aimerait lui parler, ce qu'il accepte.
Ce que va lui dire Jen par la suite va le troubler à jamais. Tout d'abord, elle s'exprime réellement comme s'il était le personnage de Genova. Elle va même parler des tentacules du personnage comme si c'était les siennes. Au départ, Zach trouve ça bizarre, mais il se dit qu'elle ne fait que jouer un rôle. Par la suite, elle affirme être une réincarnation du personnage et que les jeux vidéo existent dans des univers parallèles. Il est donc fort possible que nous étions des personnages de jeux vidéo dans une autre vie, selon elle. Elle affirme croire fermement que Zach est une réincarnation du personnage du même nom dans le jeu vidéo. Ce phénomène se nomme en anglais « Otherkin ». Le phénomène « Otherkin », je vais vous faire un petit résumé, là, est bien réel, en fait. Il y a vraiment des gens qui croient à ça, là. Il s'agit d'une sous-culture de gens qui ne s'identifient tout simplement pas aux humains. On le sait, il y a des gens qui ne vont pas s'identifier au sexe féminin ou masculin, mais ces gens-là s'identifient tout simplement pas aux humains. Ils croient à la réincarnation, bien sûr, et croient que leurs ancêtres ne sont pas définis par la génétique, mais bien par les différentes vies qu'ils ont incarnées. Ces gens-là peuvent affirmer être des créatures mythologiques comme des elfes, des anges, des dragons, par exemple. Cette sous-culture est d'ailleurs née d'Internet vers la fin des années 90 via des listes de courriels. Nous aurons peut-être la chance d'en discuter dans un futur épisode. Mais revenons à notre histoire. Selon Jen, elle s'identifie profondément au personnage de Genova dans Final Fantasy VII et elle croit que Zack est en fait la réincarnation du personnage du même nom. Donc c'est quand même assez fort ici, là. Elle va ainsi l'inviter à venir les visiter, elle et Ojo, dans leur logement en Pennsylvanie. Même si Zack trouve ça bizarre au début, il est assez ouvert d'esprit. Il croit en la réincarnation parce qu'il affirme que plusieurs peuples y croient, donc il y a peut-être du sens derrière ça. Il est un grand fan de Final Fantasy VII, donc il accepte d'y aller. Il se dit qu'il s'agit d'une bonne occasion de rencontrer des gens qui cultivent la même passion que lui pour le jeu.
Zack accumule donc 300$ pour acheter un billet de bus pour aller les rejoindre à partir de sa maison à Brooklyn, à New York. Nous sommes dans les environs de Noël 2002. Et Jen et Ojo l'ont invité à venir passer un week-end dans leur logement avec eux. En sortant de l'autobus après son périple, Zack est accueilli par Ojo, qui porte un long sarrau blanc comme un scientifique. Première surprise qui l'attend, il remarque tout de suite que Ojo est en fait une femme, même si elle se vêtit comme un homme. Donc René, en fait c'est René avec un E, son prénom. Ojo l'amène au logement, donc René, où Jen les accueille en criant violemment au visage de Ojo. Quelques secondes plus tard, Jen sourit soudainement et accueille Zack, leur nouvel ami, d'une meilleure manière. Déjà, là, on voit le comportement de Jen qui est un petit peu étrange par rapport à l'entrée de Zack dans la maison.
Oui, carrément.
Zack se rend compte rapidement au cours du week-end du climat qui règne dans la demeure. Tout d'abord, Jen et René sont un couple, mais Jen ne semble pas tout à fait à l'aise avec sa sexualité. C'est pourquoi elle traite René comme si elle était un homme. Avec eux, une autre fille nommée Aerys, comme le personnage de Final Fantasy, vit avec eux dans le petit logement de deux chambres. Aussi, Zack se rend compte que tout le jeu de rôle que Jen opérait en ligne est bien réel. C'est-à-dire que même en personne, elle appelle ses amis par leur nom de personnage. Elle semble croire réellement à ce phénomène de réincarnation d'Oderkin. Elle semble aussi pratiquer certaines formes de magie ainsi que du tarot. Néanmoins, malgré le caractère étrange de la maison, Zack a quand même du plaisir à les côtoyer. Ils passent du bon temps malgré les nombreuses sautes d'humeur de Jen, et ça leur permet bien sûr de jouer au jeu et de vivre leur fantaisie tous ensemble. Zack explique sur son blog qu'à l'époque, il était vulnérable. Il buvait beaucoup. Il était lui-même à la recherche de son propre genre sexuel et n'avait pas une grande estime de lui-même. Il était aussi ouvert au paganisme. Le paganisme, en fait, c'est un terme générique qui est employé par les chrétiens pour désigner la religion de ceux qui ne sont ni chrétiens ni juifs, en fait. Et aussi, il est intéressé à l'ésotérisme. Il acceptait donc les croyances de Jen sans trop remettre les choses en question. Il prenait ça pour du cash, comme on dit.
Oui, ben il semblait être jeune, un jeune étudiant, un peu vulnérable, sans trop grande estime de lui-même, tout ça. Il s'est facilement laissé embarquer par cette influence-là de Jen et René. Il y avait plusieurs visiteurs dans la maison Final Fantasy, qui étaient tous surnommés selon des personnages du jeu. Zack parle d'un certain Gast, qui était un homme qui vivait en permanence avec eux, et aussi un certain McCool, qui était souvent de passage, sans oublier Aerys, la troisième fille du groupe qui habitait souvent là. Il y avait donc plusieurs visiteurs qui étaient souvent de passage dans la maison, qui venaient et qui repartaient. Ces gens étaient pour la plupart recrutés en ligne par René ou Jen via des sites de fans qu'ils maintenaient. Zack va effectuer plusieurs courts voyages en Pennsylvanie pour les visiter le temps d'un week-end au cours de printemps 2002. À chaque fois, il économise 300$ de son maigre budget d'étudiant pour s'y rendre.
Quand même, hein?
Ah oui. À l'été 2002, les relations entre Zack et sa mère à Brooklyn se détériorent et il décide de faire le grand saut et d'aller rejoindre Jen et René dans la maison Final Fantasy pour y habiter en permanence. Il ramasse toutes ses affaires, dont son rat de compagnie, et part rejoindre le groupe en Pennsylvanie. Il va aussi se trouver un petit boulot dans un supermarché du coin pour arrondir les fins de mois. C'est au cours des semaines suivantes que les choses vont dégénérer dans la maison. Tout d'abord, Zack se rend compte que peu de gens travaillent dans cette maison. Jen fait quelques petits contrats de babysitting parfois, mais sans plus. Le groupe se nourrit principalement de Gatorade et de viande bon marché achetée à rabais au supermarché. Parfois, ils tombent tous malades en raison de la viande avariée qu'ils ingèrent.
Arc.
Jen va aussi forcer, écoutez bien ça, Zack et Aerys à avoir une relation amoureuse entre eux, puisque c'est le cas dans le jeu Final Fantasy. Donc, Zack démarre une relation avec Iris, et donc elle veut forcer ces deux-là à avoir une relation pour que vraiment ça soit cohérent avec le jeu. Là.
Incroyable.
Zach est profondément inconfortable puisqu'il n'est pas lui-même à l'aise avec sa propre sexualité, et vous allez voir, ça ne s'arrêtera pas là. Vous allez voir, c'est aussi des gens où souvent, c'est difficile de savoir quel est le genre réel de ces gens-là. Mm-hmm. Parce que souvent, ils ont des noms d'hommes, mais en fait, c'est des filles. Ouais. C'est des gens qui sont pour la plupart asexuels ou pansexuels, du moins.
C'est vrai.
Donc, on s'attendra pas trop au genre aujourd'hui. On va décrire les gens par leur nom, finalement.
Ouais. Au fil du temps, Jen va finir par quitter son emploi de babysitter. La charge du logement reviendra entièrement sur les épaules de Zach, qui travaille au supermarché. Tout l'argent qu'il reçoit ira pour aider le groupe, mais en fait, se retrouvera dans les poches de Jen, qui va dépenser essentiellement pour des articles dits « magiques », comme des reliques ou des cristaux. Pour subvenir à ses besoins et à ceux du groupe, Zach va voler couramment au supermarché certains articles afin de se nourrir, ce qui lui causera beaucoup de problèmes. Éventuellement, ses quarts de travail au supermarché seront réduits à un jour par semaine.
Et même, il disait un peu plus loin, jusqu'à une heure par semaine. Donc, je pense qu'il faisait 6 $ de l'heure. Donc, à un certain moment donné, son salaire était de 6 $ par semaine.
Tu peux même pas à peine manger un ou deux repas. Là,
non, c'est la pauvreté. Là.
Ah oui, c'est plus que la pauvreté. Jen va cesser complètement de sortir du petit logement de deux pièces. Elle va porter uniquement sa robe rose et ne se changera jamais de vêtements. Peu à peu, les membres du groupe vont cesser complètement de se laver en préférant s'asperger de parfums et d'huile. Il n'y a rien de mal là-dedans. Jen va aussi mettre du colorant alimentaire dans tout ce qu'elle mange, puisque le personnage de Genova dans Final Fantasy ne mange que des aliments d'une certaine couleur. Jen va aussi commencer à réaliser des rituels auprès des membres du groupe. Dans le cadre de ceux-ci, ils vont forcer Iris à prendre des bains d'eau glacée avec du colorant vert. Ils vont aussi enfermer Zach plusieurs heures dans une chambre insonorisée afin qu'il puisse encore mieux se rappeler les mémoires de son personnage. Zach en sera traumatisé pendant plusieurs mois. Plusieurs rituels de mémoire de vie passée seront performés dans la maison au cours des mois qui suivent, qui consistent à chanter des formes de prière tout allongées au sol avec la musique de Final Fantasy qui joue en fond. Zach décrit aussi le tempérament très explosif de Jen. Elle va s'engueuler sévèrement avec René pour des raisons ridicules. Et après s'être porté des coups et des insultes, elles vont s'adonner à des pratiques sexuelles brutales dont tous seront témoins. Zach croit même qu'à un certain moment, Jen va violer René.
Bon, on s'entend, ils sont dans un petit logement, deux pièces. Là,
ouais,
donc,
c'est pas grave.
Il n'y a pas tellement d'intimité. Là.
Non, t'as bien raison. Les abus physiques, mentaux et sexuels vont devenir coutumes dans la maison. De plus, le logement va devenir un endroit de plus en plus insalubre. Personne ne prend la peine de sortir les poubelles. Les conditions d'alimentation sont dignes du tiers-monde et personne ne se lave jamais. Zach va décrire l'odeur du logement comme un mélange de sexe malpropre, de pourriture alimentaire avec une petite touche saupoudrée de sucre à glacer. Car Jen ajoute des trucs brillants, des glitters, là, partout.
Et il y a même des propriétaires là, qui ont loué leur logement à cette gang-là, qui ont confié que même des années plus tard, ils trouvaient encore des petits brillants un peu partout dans les coins, dans les cracks de plancher et tout ça, tellement ils en mettaient partout. Là. Donc, du moins, la description de l'odeur que Zach nous fait... On imagine justement tout ça, là, toute cette pourriture alimentaire, cette odeur d'insalubrité, mais avec toujours la touche de sucre à gâteau
un peu, ça
lève le cœur. Après quelques semaines, après que Zach soit emménagé, le groupe décide de déménager pour ne pas avoir à nettoyer leur logement actuel qui est complètement insalubre. C'est Zach qui doit se charger de tout déménager. Pourquoi? Ben, parce que son personnage de Final Fantasy VII est un être serviable et que Jen, elle, est la reine des vilaines, donc elle ne lève pas le petit doigt. Et Ojo, en fait, René, est un scientifique frail, donc il ne peut, dans le jeu, donc il ne peut pas, en fait, lever de boîte et tout ça. Donc c'est Zach qui a la tâche de déménager tout le groupe. Le nouveau logement ne comprend qu'une seule chambre. Ils vivent donc dans une extrême proximité. Ils dorment tous sur le deux matelas sur le plancher de la même chambre. Les sautes d'humeur de Jen, la violence, les cris, le sexe vont devenir une habitude et à chaque fois que Zach va tenter de contacter la vie réelle, Tous ses mouvements seront épiés et il sera coupé de contact avec ses amis dans la vie réelle. Il explique qu'entre autres, quand il essayait via Internet d'écrire des emails ou de contacter d'autres gens via le chat, il y avait toujours Jen derrière lui qui lui demandait à qui il parlait puis qu'il l'épiait au-dessus de son épaule. Donc vraiment, là, aucune intimité. Découragé, il va commencer à écrire à un programme informatique d'intelligence artificielle afin de garder sa sanité d'esprit.
C'est fou,
donc,
ça.
Il va converser avec un robot, littéralement, sur Internet. Et un certain matin, quelqu'un dans la maison va lui voler ses souliers et c'est là qu'il prendra une décision drastique, quitter la maison Final Fantasy à tout jamais. Dans les jours qui suivent, Zach va vivre dans la rue, donc il quitte la maison, il part, il a plus d'argent en poche, il est presque en famine en fait, là. Il est sous-alimenté, même chose pour son rat de compagnie qui lui aussi est sous-alimenté, donc les deux sont à la rue. Apparemment que Zach s'est trouvé une paire de flip-flops, là, une paire de sandales vraiment pas chères à quelque part parce qu'il n'avait plus de souliers et c'est avec ça qu'il se déplaçait, là. Il va vivre dans la rue et il va parfois aller squatter chez McCool. Vous savez, un autre membre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je crois que c'est une fille, mais j'en suis pas 100% sûr.
Mais elle doit avoir 1000 McDo, en tout cas.
Ouais. C'est que son nom de famille, c'est McCullough. Ouais. Donc, McCool, ça doit être un genre de surnom. Ouais. Selon lui, en fait, McCool a gardé un pied dans la réalité. C'est la seule personne qui avait encore un brin là, de lucidité dans ce groupe-là. Cette période sera très difficile pour Zach. Il va dormir dans la rue pendant la nuit et squatter la bibliothèque le jour pour pouvoir consulter Internet. Pendant ce temps, Jen et René vont constamment intimider ses amis et connaissances en ligne afin qu'ils cessent d'entrer en contact avec lui. Donc, il y a vraiment une intimidation qui se fait auprès des contacts de cette personne-là. Zach va décider de poser un geste très courageux, quitter la Pennsylvanie pour revenir chez lui et documenter toute son expérience sur un blog. À l'époque, c'est LiveJournal, donc la plateforme par excellence pour maintenir un blog, là. On se rappelle qu'on est en 2002. Tout ce qui a été décrit plus haut, là, tout ce qu'on vous a dit avant, là, est tiré de ce blog-là, en fait, qui est encore disponible maintenant sur le domaine Demon Sushi. Mm-hmm. C'est très facile à trouver. Et il va vraiment documenter une tonne de choses sur ce blog-là. À ce moment, Zach a très peur d'écrire. Il a peur des représailles de Jen. Il va tout de même se rendre compte rapidement que son blog gagne de l'attraction et que plusieurs personnes vont le contacter pour lui décrire des histoires similaires en lien avec la maison Final Fantasy. Il va se rendre compte qu'une autre maison similaire a existé avant celle qu'il a visitée et que le groupe a déménagé dans une autre maison peu de temps après. Son blog va avoir l'effet d'une bombe dans le fandom de Final Fantasy VII, ce qui forcera Jen et René à effacer leurs sites web respectifs afin de ne pas laisser de traces sur le web. On estime que selon les témoignages qu'a recueillis Zach, il y a plus d'une vingtaine de personnes qui ont cohabité avec Jen et qui ont vécu des expériences d'abus semblables à ce que lui l'a vécu.
Ah, c'est assez traumatisant.
Mais ça ne s'arrêtera pas là.
Plusieurs personnes ont écrit à Zach pour leur faire part de leur expérience, notamment une certaine Zarla. Cette dernière serait une amie de Zach qui aurait acheté des billets pour un concert de Jimmy Eat World dans la ville où était située la Final Fantasy House.
On se rappelle qu'on est au début des années 2000, donc Jimmy Eat World battait son plein.
Vraiment. Zach aurait offert à Zarla de loger avec eux dans la maison. Zarla se rappelle que pendant tout le week-end, Jen a tenté de trouver à quel personnage de Final Fantasy l'âme de Zarla était liée. Il aurait fait un genre de rituel où ils sont tous couchés au sol, encore une fois avec la musique de Final Fantasy, et Jen qui récite des genres de chants et des prières. Je serais curieux de voir tout ça. À un certain moment, le groupe aurait déclaré que l'âme du personnage de Vincent de Final Fantasy se serait transférée dans le corps de Zarla. Il y aurait eu des lectures de tarot aussi au cours du week-end et plusieurs moments bizarres comme ça. Les quatre dormaient sur le sol dans une même chambre où tous étaient témoins des disputes et des ébats sexuels toujours entre Jen et René. Un autre internaute a offert un témoignage troublant sur le site de Zach, sous le pseudonyme Candy Wrapper, donc emballage de bonbons. Notez bien ce nom-là. Sous la forme d'une lettre ouverte extrêmement percutante à Jen, l'internaute se vide le cœur en affirmant avoir vécu, elle aussi, dans la maison de Final Fantasy. Elle dit avoir été l'apprenti de Jen qui lui apprenait la magie. En fait, elle dit n'avoir retenu que des abus de toutes sortes de sa part. Elle indique aussi à quel point Jen ruine la vie de René, qui ne va plus à ses cours universitaires puisque Jen lui demande trop d'attention. Par conséquent, Jen ruine la situation financière de tout le monde. Elle fait aussi référence au fait que Jen refuse d'accepter son homosexualité et c'est pourquoi elle traite sa partenaire comme un homme. Mais l'information la plus importante que l'on tire de cette histoire, de cette lettre, en fait, de ce témoignage, est cette ligne. « Tu ne ressembles pas à un personnage de Final Fantasy, tu ressembles à Jennifer Cornette. Point final. Nous avons donc, pour la première fois, une mention du vrai nom de Jen, Jennifer Cornette. »
Une autre personne, par la suite, va offrir un témoignage vraiment troublant sur le site de Zach, une certaine Mella. Et encore une fois, c'est dur à dire si ces gens-là sont des hommes ou des femmes. On va tout simplement l'appeler Mella, vu que c'est un nom féminin. Supposons que... Mais dans ce cas-ci, je crois que c'est une femme. Elle dit avoir été, elle aussi, attirée par la Final Fantasy House peu après que Zach soit parti. Qu'elle aurait même vécu 2 ans avec eux. J'imagine l'enfer là, pendant 2 ans. Jen aurait englouti plus de 50 000 $ de la part de Mella. Ce budget aurait disparu dans une quantité incroyable de frivolité, comme des items considérés magiques. Au cours de ces 2 ans, elle témoigne elle aussi d'abus physiques, sexuels et émotionnels importants. Elle note elle aussi l'abus constant de Jen envers René, qui vraiment est un peu comme la marionnette de Jen. À cette époque, une autre fille, Angel, avait emménagé dans la maison. Encore une fois, Angel est le nom du personnage dans Final Fantasy, on ne connaît pas son vrai nom. Et malgré le fait que cette fille avait un mari, elle formait un triangle amoureux avec Jen et René. Angel était extrêmement violente et elle était extrêmement jalouse de Mella. Même plusieurs années après le passage de Zach dans la maison, Mella indique que Jen portait toujours la même robe rose qu'à son époque et que l'odeur de ses 3 filles était insupportable. Elles auraient tous éventuellement déménagé dans une maison appartenant à Mella qui n'aurait eu d'autre choix que de tous les renvoyer après un certain temps parce que vraiment, c'était devenu insalubre. Il n'y avait aucune... organisation dans cette maison-là, c'était le bordel et il y avait des abus physiques, verbaux et sexuels de partout. Donc, elle finit par les sacrer dehors. Finalement, on apprend que Jen, donc dans le témoignage de Mella, elle indique à un certain moment donné que Jen l'aurait poussée à devenir stripteaseuse au cours de cette expérience, en plus de son emploi très payant dans une banque, car Mella n'apportait pas assez d'argent à la maison. Elle l'aurait poussée vers l'industrie du travail sexuel. Donc, je vous passe des bouts parce que c'est une longue conversation, c'est des échanges de courriels entre Zach et Mella. Je crois qu'on va éventuellement vous mettre le lien de ce site-là, comme ça vous pourrez vous-même aller tout lire ça parce que c'est juste l'expérience de Zach. On vous le résume en quelques paragraphes ici, mais c'est un très long texte et on vous passe énormément de détails parce qu'il y en a eu des abus, il y en a eu des choses faites dans cette maison-là. C'est frappant, en fait. D'autres témoignages envoyés à Zach font état des pires abus, entre autres un genre de viol collectif survenu dans la maison entre Angel, René et Jen, où tout le monde aurait été forcé de regarder. René aussi là, n'aurait pas eu le choix de vendre son propre sang à un certain moment donné afin de subvenir aux besoins de la maison. Donc, on voit vraiment qu'il y avait... C'était comme une mini-secte. Tout le monde contribue à subvenir aux besoins complètement surnaturel de Jen. Après l'expulsion qu'ils ont vécue de la maison de Mella, il semblerait qu'il n'y a plus eu d'autres maisons Final Fantasy, car Jen et René ont aussi compris que des gens parlaient d'elle sur Internet, parce que là, le blog de Zach a commencé à devenir populaire à ce moment-là, et là, ils se rendent compte que la soupe commence à être chaude. Ils se rendent compte qu'ils sont un peu à découvert, il y a des noms, le nom réel de Jen semble avoir été sorti, et ils sont un peu exposés, donc ils ont tout à gagner à arrêter ce modus operandi-là. Ceci dit, il était toujours impossible de connaître leur identité, c'est-à-dire qu'on a le nom de Jennifer Cornette, mais c'est difficile à vérifier, on n'a même pas de photo qui vient avec ça, on n'a pas d'adresse, rien d'autre, et René, eh bien, c'est encore très flou, là. Les deux communiquent, en fait, qu'avec une boîte postale située à plusieurs kilomètres de la maison. Donc, vraiment, ils se déplacent, je crois qu'ils doivent faire genre 40 kilomètres pour aller chercher le courrier.
Okay.
Et de cette façon-là, ben, on peut pas repérer exactement où ils habitent parce qu'ils semblent déménager assez souvent. Plusieurs années plus tard, là, mon cher Seb, là, on se retrouve en 2008. Donc, cette histoire-là avec la Final Fantasy House, un peu, ça a arrêté d'être... discuter sur Internet, on suppose que bon, c'est une histoire horrible, on sait pas encore si c'est vrai en fait, parce que tout ça c'est des témoignages sur Internet. Est-ce que tout ça c'est inventé? On le sait pas. Mais plusieurs années plus tard, en 2008, un autre internaute là, du nom de Pete s'exprime sur un forum de discussion à propos de situations de colocation qui tournent mal. Je crois que le forum s'appelle Housemate Horror, quelque chose comme ça, là. Il nomme sa série de publications La Saga de Sarah, Sarah's Saga, et en plusieurs longs textes ponctués de suspense et de cliffhanger, c'est vraiment intéressant à lire. Encore une fois, on ne vous le lira pas complet, mais on vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Il décrit qu'il y a quelques années, lui et ses colocataires étaient à la recherche d'une coloc supplémentaire pour partager les frais de leur loyer en Californie. Une femme de 27 ans, du nom de Sarah, s'est montrée intéressée. Elle s'est d'abord présentée comme une ingénieure informatique qui venait travailler en Californie. Elle paraissait bien, semblait avoir des bons moyens financiers, donc elle fut acceptée dans le groupe. Par contre, très tôt, quelques semaines après avoir emménagé, le groupe se rend compte que Sarah ne travaille toujours pas. Elle aurait été renvoyée de sa compagnie de technologie et elle passe ses journées à jouer à un vieux RPG des années 90 nommé Suikoden. Et elle ne contribue pas du tout au paiement du loyer. Encore plus étrange, cette même Sarah prétend être en relation directe avec les personnages du jeu. Ça ne vous rappelle pas un petit quelque chose, ça?
Mm-hmm.
Les choses vont dégénérer alors que Sarah prétend qu'elle n'est pas seule à avoir cette relation particulière avec le jeu Suikoden. Elle affirme que plusieurs personnes sont dans la même situation qu'elle et qu'elle est en fait en train de créer une véritable religion à partir de cette pratique. Elle va même distribuer des pamphlets à la sortie des événements à propos de cette nouvelle religion là, qu'elle mène. Les gens vont même la supporter financièrement via des dons sur son site web. Elle va recueillir des dons et elle va recueillir des fonds là, grâce à ça. Elle va même réunir un groupe de gens dans l'appartement, qui est partagé encore une fois avec plusieurs colocs, afin de canaliser l'esprit des personnages du jeu dans les âmes de ces personnes. Dans ce cas-ci, là, on parle d'une certaine Becky qui doit justement canaliser l'esprit d'un personnage du jeu. Elle va effectuer un genre de rituel dans le logement avec des prières, des chants au son de la musique du jeu devant tous les colocs qui regardent ça avec... surprise et en même temps...
stupéfaction.
Exactement, et oui. Et à un certain moment donné, en fait, l'auteur, Pete, explique que à 22h, il a dit, il est 22h maintenant, il vous reste 5 minutes, sinon j'appelle la police.
Ah ouais.
Apparemment que le rituel aurait viré au drame, que cette Sarah se serait mise à crier après tout le monde, et vraiment, là, rien n'allait plus là, dans cette maison-là. Après plusieurs mois d'enfer et de refus de paiement, de bataille légale avec la régie du logement parce que elle stipulait toujours qu'elle se faisait renvoyer étant donné sa religion.
Ah.
Donc, elle plaidait un peu la discrimination.
Ben oui.
Et on sait que c'est difficile faire expulser quelqu'un d'un logement hein, avec la régie du logement.
Vraiment.
Donc, c'est vraiment difficile. Mais finalement, après plusieurs mois, ils ont réussi à la mettre dehors de l'appartement. Et là, un autre rebondissement, c'est pas encore fini cette histoire-là, parce que qui est cette Sarah, hein? Ça nous dit quelque chose, hein? Est-ce que c'est, ça se pourrait-tu que ce soit quelqu'un de l'entourage de Jen? Est-ce que c'est peut-être même Jen? On reconnaît le même genre de modus operandi ici,
ouais.
Là. Le temps passe et l'histoire vient au nez des membres du groupe de discussion de Something Awful.
Mmh.
On vous a déjà parlé de ce site web,
ouais.
Hein, je crois, dans le temps du Slenderman. À force d'enquête, les internautes viennent à se rendre compte que Sarah, de l'histoire publiée plus tôt, est en fait une certaine Catherine Rain, qui est une fan de jeux de rôle et de jeux vidéo. Un homme prétend être l'ex de cette fille. Donc, les gens commencent à échanger et reviennent sur l'histoire de Pete publiée sur sa mauvaise coloc et tout ça. On est quelques années plus tard. C'est plus tellement d'actualité, mais il y a quelqu'un qui dit « Hey, c'est drôle, le comportement de cette fille-là décrit dans la saga de Sarah, ça ressemble à mon ex. » Et justement, lui, il va commencer à publier des choses sur « Something Awful ». Il va même publier des photos, en fait. Et cet homme se rappelle que plusieurs années plus tôt, cette fille était convaincue d'être Aerys, un personnage de Final Fantasy, et qu'elle avait habité dans la fameuse maison de Final Fantasy. Donc, vous vous rappelez qui était Aerys, on en a parlé plus tôt. Mm-hmm. C'est pas Jen, c'est une troisième fille qui vivait avec, avec Jen et René. Et on se rappelle aussi que ça ressemble énormément à l'histoire de Candy Rapper, publiée vraiment plus tôt sur le blog de Zach. Donc, en fait, on comprend qu'à force d'enquête, qu'il s'agit tout ça de la même personne. Donc, cette personne de Aerys porterait le nom de Catherine Rain. Donc, enfin, on a le visage, on a le nom d'une personne qui a habité dans la Final Fantasy House. Donc, ce serait potentiellement réel, toute cette histoire-là. Les internautes vont aussi trouver des photos, voire la seule photo de Jen et de René disponible sur le web. Donc, ils vont faire des enquêtes et tout ça, ils vont trouver une photo. La photo de Jen date de 1999. Il semble que depuis, elle ait pris beaucoup de poids et elle soit devenue plus malpropre de ce qu'on dit. Donc, la photo de Jen, Seb, en fait, elle semble être... Elle n'est pas laide, en fait. Elle a les cheveux noirs, attachés. Ouais. Elle semble vêtue d'un sarrau, un peu comme si elle était déguisée en scientifique, un peu comme Ojo. Et puis, elle semble tenir un genre de seringue dans sa main ou quelque chose comme ça. Ça semble être une photo qu'elle posait probablement, déguisée en scientifique ou quelque chose comme ça. Mais il semblerait qu'elle se soit énormément dégradée physiquement au fil du temps, là. Et René, en fait, la photo de René, ben en fait, René semble être une fille beaucoup plus masculine, je dirais, dans son look, et porte, elle aussi, un grand sarrau comme Ojo, finalement, comme son personnage. Donc, tout est cohérent avec ce qu'on a entendu jusqu'à date. Donc, tout porte à croire que cette histoire est bien réelle. Ce sont les dernières traces de la Final Fantasy House qui seront publiées sur le web. Par contre, il semblerait que Jen ne se soit pas arrêtée là dans ses démarches. Et Seb, t'as fouillé pour nous, t'as trouvé d'autres pistes, parce que décidément, là, ça ne finit plus cette histoire.
Jen n'en reste pas là. Au fil des années suivantes, elle semble s'être séparée de René, mais d'être restée en relation avec Angel. Je vous rappelle, c'est la fille qui a été décrite plus tôt comme extrêmement violente. Après s'être sauvée avec Angel, elles ont emménagé dans une maison située à Lake Forest, dans l'Illinois. Elles ont, semble-t-il, tenté à plusieurs reprises de créer différents cultes et un peu à la sauce de Final Fantasy, mais sans trop de succès. Et tout ça, c'est des ouïes-dire. On n'a jamais eu vraiment la précision de ces cultes-là, mais c'est ce qui circule. Cependant, une nouvelle opportunité allait se pointer le bout du nez. Le 4 avril 2013, le réseau de télévision NBC diffuse pour la première fois la série Hannibal, qui est tirée des livres de Thomas Harris. Vous connaissez sûrement à propos du célèbre personnage Hannibal Lecter, qui est un psychiatre et tueur en série, qu'on a connu beaucoup, entre autres, à cause du Silence des agneaux, comme le premier film qui a été mis à l'écran de cet auteur-là. En mai de la même année, en 2013, soit à peu près un mois plus tard après la diffusion du premier épisode, Jen, qui est devenue une fan de la série Hannibal, enregistre le nom de domaine tattle-crime.com pour y créer un blog sur la série. Elle crée également un blog sur Tumblr qui porte le même nom et plusieurs autres blogs sur Tumblr sur le même sujet. Pourquoi le nom tattle-crime.com? Dans la série Hannibal, le personnage Frederica Freddy Lanz est une blogueuse qui gère un site dédié au true crime qui s'appelle justement Tattle Crime. Dès le départ, elle affirme que son site est officiellement associé au réseau de NBC et à Brian Fuller et à Martha De Laurentiis, qui sont les deux producteurs de la série. Bien sûr, Jen, fidèle à son habitude, a déformé son identité. Elle signe les articles de son blog sous le nom de Freddy Lanz. Elle y inclut une petite biographie qui accompagne sa signature qui est la suivante. Freddy Lanz est une journaliste pour le National Tattler et webmestre du site tattle-crime.com. Elle aime lire les petites attentions, faire de longues promenades sur la plage et aime écrire sur le thème du meurtre. Chaque jour, elle peut être trouvée en train d'envahir la vie privée de quelqu'un ou d'être menacée de poursuites pour diffamation. En fait, elle se décrit exactement comme le personnage dans la série. Elle clame haut et fort qu'elle est la véritable personne sur laquelle le personnage est basé. Ce qu'il faut dire, c'est qu'initialement, dans les romans de Thomas Harris et même dans les premiers films, Freddie Lounds, le personnage, était un homme. Et c'est la première fois qu'on le personnifie à l'écran dans cette série-là comme une femme. Mais elle est convaincue que le personnage est basé sur sa vie. Fait qu'on voit qu'encore une fois, elle s'impersonnifie, elle prend un peu l'âme d'un personnage fictif et elle s'attribue totalement la personnalité de ça. Même si les allégations qu'elle prétend être associée à NBC sont fausses, le site devient tellement populaire que NBC et les producteurs de la télé vont promouvoir le site que Jen a créé régulièrement sur leurs propres réseaux sociaux et vont même interagir avec elle aussi sur Facebook et Twitter. Rapidement, elle nomme ses fans des « Tattlers », un peu comme nos distordus, et elle monte une équipe en plus de Angel pour gérer le site et la communauté. Jen n'a pas vraiment l'habitude de travailler pour subvenir à ses besoins. Elle utilise encore une fois les gens qui travaillent pour elle ou ses fans dans ce cas-ci, les Tattlers, pour la faire vivre. Étant donné que son site porte le même nom que dans la série, et justement, ça, les producteurs n'ont pas été aux aguets. Hein. Généralement, maintenant, quand on fait des séries télé puis qu'on utilise des noms de domaines fictifs, généralement, les séries les achètent pour éviter toutes sortes de problèmes, justement, là, de marques de commerce et tout ça. Mais dans ce cas-ci, ils ne l'avaient pas fait. Et même ceux-ci, les producteurs endossent publiquement le site de Jen. Et donc, ce qui l'aide, elle, justement, à recruter des artistes sur Tumblr pour créer du contenu et dessiner toutes sortes de fan art, en fait, de la série Hannibal. Et elle leur promet aux artistes qui lui dessinent ces choses-là gratuitement. Elle leur promet de la visibilité, des cadeaux en lien avec la série. Mais autre chose, son point principal, c'est qu'elle leur promet de les faire connaître aux producteurs même de la série. Et même, j'ai lu qu'elle faisait signer des fausses clauses de confidentialité aux gens, comme si c'était vraiment quelqu'un qui faisait partie de l'entourage de NBC. Ce qui est étrange, en fait, c'est que les producteurs, là, ils savaient qu'elle n'était pas liée à ça, mais jamais ils l'ont dissipé, ils l'ont empêché de faire quoi que ce soit, parce que pour eux, je pense qu'ils voyaient quand même l'effet marketing.
Ça les aidait.
Ben oui, puis ils n'avaient pas à gérer ça d'une certaine manière. Elle utilisait aussi un autre stratagème pour amasser de l'argent, toujours en utilisant les artistes, entre autres, qui travaillaient pour elle. Elle demandait des dons à ses fans pour payer les artistes qui faisaient les dessins, tout ça, mais elle ne les payait jamais. Elle organisait aussi toutes sortes de concours sans jamais envoyer les prix aux gagnants. Il y avait toutes sortes d'échanges. C'était toujours malhonnête, en fait. C'est toujours elle qui récoltait tout. Et les fans et les lecteurs n'avaient jamais rien de tout ça. Ce qui est assez étrange, c'est qu'il y a encore une fan base, en fait, qui croit en elle et qui sont convaincus de ce qu'elle dit aussi, un peu comme comme les gens qui habitaient avec elle dans la maison de Final Fantasy. C'est qu'à un moment donné, ton esprit est plus capable de voir clair et il croit carrément que c'est elle. En fait, les 4-5 personnes que je vous ai nommées tantôt, c'était ce qu'il disait, c'était son core member. Là, c'était vraiment les gens. Et c'est les seules personnes même qui l'ont vu en vrai, qui avaient vraiment un vrai contact physique avec elle. Et ces gens-là la défendaient continuellement aussi sur la place publique parce qu'au fil du temps, il y a quand même eu des plaintes et tout ça. Ces Tattlers l'ont suivi au fil des 3 saisons d'Hannibal. La dernière saison s'est terminée à la fin août 2015. Donc 2013, 2014, 2015, là, ils sortaient une saison par année, en fait, Hannibal. Puis son dernier post sur le site Tattle Crime, en fait, il a fallu utiliser la Wayback Machine pour aller essayer de chercher ça, là, parce que c'est plus présent en ligne. Il date du 30 novembre 2015, ce qui est quelques mois après la diffusion de la série. Elle a entretenu son site, elle changeait même le design à chaque saison. Là. Elle s'est beaucoup toujours occupée de ça. Cependant, malgré tout, le culte semblait que virtuel. T'sais, oui, elle a usurpé des gens, elle a trompé beaucoup de gens, elle a récolté des dons, mais malgré tout, à part son staff member, là, les 4-5 personnes, il ne semble pas avoir eu d'autres personnes physiquement, du moins, qui ont subi ces sévices. Elle ferma officiellement son site au courant de l'année 2016 en laissant une note de remerciement TattleCrime.com is now closed, donc est maintenant fermé. Merci beaucoup aux Fannibals, les fans de Hannibals, pour toutes vos années de support et Helsing Freddy. Étrangement, cette note de fermeture coïncide avec l'ouverture d'une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle TattleCrime.com Exposed. Donc, on va exposer, en fait, pour démontrer un peu tout le stratagème. Et cette chaîne-là est supposément fondée par une certaine Freddy Lanz, mais ça, c'est le nom du personnage, mais c'est bien sûr pour un peu se moquer de ça. Mais dès que c'est sorti, cette chaîne-là a tout de suite dénoncé, en fait, le stratagème de Jennifer Cornette avec le Fannibal. Et c'est une chaîne qui est encore très active. Hein. Il y a des vidéos encore dernièrement qui essaient de débunker, comme on dit en bon français, tout le cas de Jennifer. Parce qu'un peu comme dans Final Fantasy, il y a eu des témoignages, il y a toutes sortes d'histoires qui se passent autour de ça. Et l'auteur de cette chaîne-là, elle reçoit constamment des menaces des gens qui croient encore dur comme fer que Jen... c'est que elle est pas, ses fans sont pas contents qu'elle, elle attaque Jen, mais tu sais, il y en a même qui, il y a des rumeurs aussi qui diraient que c'est Jen, la personne derrière le channel, mais c'est impossible, elle nomme son nom à plusieurs reprises, elle se montre le visage de temps en temps, et c'est pas elle du tout, là. Même elle a fait une vidéo qui explique vraiment, pourquoi ce n'est pas elle. Et sincèrement, c'est une chaîne quand même intéressante si vous voulez vous creuser un peu plus le dossier là, de ça. Mais on voit encore une fois qu'elle a strikes again, en fait, qu'elle était de retour pendant un bon 3 ans à vivre sur le dos des gens. Là.
Et même des gens ont aussi témoigné comme quoi elle avait démarré aussi un fandom autour de Helsing, qui est une autre série populaire. Oui. Et puis, donc, elle semble vraiment aller d'un univers à l'autre. Puis l'univers de Hannibal est très différent de l'univers de Final Fantasy. Ben Final Fantasy, c'est vraiment un jeu japonais qui attire énormément de gens qui sont fans d'anime, par exemple. Mm-hmm. Mais tandis que Hannibal, c'est beaucoup plus nord-américain. C'est une histoire très, très nord-américaine, encore une fois, qui touche au Star System. Donc, elle est dans une table de gens complètement différentes. Donc, on dirait que c'est ce changement d'univers de un à l'autre qui lui permet toujours de s'en sortir. Ouais. Parce que là, on est en 2019, ça va faire près de 20 ans là, qu'elle mène des genres des mini-cultes dédiés à des univers de jeux vidéo ou de séries, mais personne n'est capable de l'inculper ou de l'attraper ou même de trouver une photo d'elle. Donc, c'est vraiment, vraiment particulier. Puis dans le cas de... Parce que cette personne-là, Jen, est vraiment très forte pour camoufler son identité en ligne. Oui. Elle ne prend jamais de photos d'elle, même apparemment qu'elle envoyait d'autres gens dans les conventions pour se faire passer pour elle. Donc, elle se montrait jamais en public, elle ne sortait jamais de chez elle. Lorsqu'elle prenait des photos d'elle, c'était toujours une genre de perruque rousse qu'elle portait, puis on voyait jamais son visage, on voyait toujours... C'est toujours des photos LED d'un coin de tête avec la perruque rousse qu'on voyait sur son Tumblr de Tattle Crime. Donc, elle est très habile pour déménager souvent, pour changer d'état, pour changer d'univers, pour entrer en contact avec d'autres gens. Ça complexifie vraiment la recherche pour trouver cette femme-là. Puis souvent, c'était évoqué dans les discussions Reddit. Hey, mais pourquoi t'appelles pas la police? Pourquoi cette femme-là pourrait se faire inculper de plein de choses? Mais souvent, apparemment, qu'il se faisait dire par les policiers et tout ça que ben ça a l'air d'être plus du drama entre amis. Là. Ça a l'air d'être plus des relations amoureuses qui des gens un peu tout croche qui habitent ensemble, mais qui sont juste désorganisés. Donc, on dirait qu'il n'y a jamais eu rien pour pousser vraiment une enquête. Puis sachant qu'elle était bonne pour disperser ses intérêts d'un fandom à l'autre, de Hannibal à Final Fantasy, à Helsing, à Suikoden, à autres, ça fait en sorte que c'est difficile de tous rassembler des informations ensemble, puis de faire en sorte que les fans de Final Fantasy parlent aux fans de Hannibal, puis qu'il y ait des connexions. Oui, donc, très habile, comme c'est vraiment un caméléon de son domaine, très habile pour effectuer son modus operandi, parce que depuis tout ce temps-là, c'est quelqu'un qui, visiblement, ne travaille pas, ne n'occupe pas d'emploi honnête. Là.
Non, c'est clair. Puis je serais curieux de voir de quoi elle a l'air 20 ans plus tard, parce que la seule photo presque qu'on a, ça elle date d'à peu près 20 ans.
Ben oui. Et on ne le sait toujours pas, en fait. Donc,
non, on n'est pas certain.
Vraiment très habile pour... pour dissimuler son identité.
Non, vraiment.
Mais c'est pas terminé, ça ne terminera jamais cette histoire-là, parce qu'en 2016, il y a un utilisateur de Reddit qui publie un texte troublant qui est intitulé, en fait, son sujet, c'est « Quelqu'un est en difficulté et je ne sais pas comment lui en sortir ». L'utilisateur décrit une situation vraiment bizarre. Une de ses amies, nommée Lisa, est prise dans une maison étrange où elle souffre tous les abus. Le plus troublant, elle serait forcée d'entamer une transformation pour devenir un homme. En plus, il s'agirait de la deuxième fois que l'utilisateur est témoin de cette situation. Il s'agirait de la deuxième fille, à sa connaissance, qui aurait été forcée de devenir un homme par cette femme maintenant nommée Jane. Donc là, cette publication-là n'a rien à voir avec Title Crime, n'a rien à voir non plus avec Final Fantasy. Là. C'est vraiment quelqu'un qui poste dans un genre de sous-section de Reddit qui est sur les énervements, là, sur les choses qui nous énervent. Puis lui, il veut sortir son ami de cette maison-là. Apparemment qu'elle vit l'enfer et que progressivement, il poste des photos. La fille est vraiment en train de devenir un homme. Là.
Okay.
C'est assez troublant. Et là, en fait, il va décrire le même modus operandi. Donc, elle a rencontré les deux filles alors qu'elles avaient toutes deux 17 ans, donc très vulnérables. Elle les gâtait sans arrêt, parce que Jane, évidemment, on suppose qu'elle est plus vieille que ça, là. Elle les gâtait, lui donnait des cadeaux et tout ça, ce qui fait en sorte que les deux filles se sentaient redevables envers elles une fois à l'âge adulte, wow. Parce qu'elles ont été gâtées alors qu'elles avaient 17 ans. Les abus ont commencé par la suite, du sexe forcé, même si les deux filles sont asexuelles et n'aiment pas le sexe, de la violence verbale et physique, de la séquestration dans la maison, et plus encore. L'internaute indique qu'il a réussi à trouver certains lieux où Jane aurait habité. L'endroit le plus récent serait une banlieue de Chicago, mais elle aurait déménagé plus de 20 fois en 2 ans. Ce qui fait en sorte qu'elle est quasiment intraçable. Donc, encore, selon ce témoignage-là, Seb, il semblerait que même dans la maison de Hannibal, il y aurait encore de l'abus et encore des sévices sexuels et physiques qui seraient en cours maintenant, ou du moins en 2016, ouais. Lorsque cet internaute poste cette publication-là. Et c'est flamboyant de voir justement l'influence que Jen ou Jane rendu là a sur ces personnes-là, les pousser justement à changer de sexe et à se faire appeler comme s'ils étaient des hommes. Et il décrit vraiment que Jane est une manipulatrice là, hors pair, là, que parfois, eh bien, son amie Lisa, en fait, était vraiment fâchée contre Jen. Elle voulait quitter la maison et tout ça. Puis, en une fraction de seconde, à cause d'une réaction de Jen, eh bien, tout d'un coup, elle était en amour avec elle. Elle voulait plus partir et tout ça. Donc, on a vraiment une réaction face à, comme si vraiment c'était une mini-secte, mm-hmm. et comme si Jen était vraiment un gourou qui a une influence là, incommensurable sur les membres de sa secte. Donc c'est très troublant tout ça. Là.
Moi, j'en reviens pas comment qu'une personne peut avoir tant d'emprise. Puis je sais que c'est toujours la question qu'on se pose quand il y a des chefs de secte et des gourous, des choses comme ça, mais c'est qu'elle doit les prendre à des moments où ils sont tellement vulnérables.
Oui.
Puis est-ce que, tu sais, quand tu es vulnérable et que tu n'as pas le choix de t'en sortir, c'est vrai que souvent, à un moment donné, tu vas t'acclimater, tu sais, par survie ou des choses comme ça. Puis justement, si elle est coupe du monde, ta perception de la réalité doit être vraiment biaisée. Puis elle devait avoir l'instinct aussi pour bien choisir ces gens-là, hein, un peu comme les chefs de secte. C'est, moi, j'en reviens pas encore. Puis je pense même aux gens qui tombent victimes de ça. Je le comprends, mais on dirait que je suis pas capable de me mettre dans leur peau, tu sais, d'arriver à cet état-là, de subir tout ça
non.
par quelqu'un. Là, je veux dire, on est tous un peu maîtres de son destin, mais on dirait qu'elle prend tellement un moment, ça doit être un moment de leur vie où ils n'ont aucune attache. Puis
oui.
des jeunes, c'est vrai qu'à 18 ans, tu peux être vraiment vulnérable. Hein? Surtout des gens qui ont peut-être, tu sais, tout le monde n'a pas eu la chance peut-être d'avoir eu des bonnes bases, ou pas des bonnes bases, mais vivre dans un milieu sain et tout ça. Donc, ces gens-là, tu sais, on n'a pas le détail de leur vie passée,
oui.
mais je suis certain que si on creusait, c'est tous des gens qui ont eu des enfances difficiles, là, je peux pas croire, tu sais, pour arriver à cette vulnérabilité-là.
Ouais, tout à fait. Ou des gens qui ont des faibles estimes d'eux-mêmes. Oui, oui. Il y a d'autres témoignages dont on vous a pas parlé. Il y en a vraiment des tonnes de témoignages à ce sujet-là. Vous pouvez vraiment fouiller si vous voulez. Il y a quelqu'un apparemment qu'à un certain moment, Jen aurait recruté une fille qui vivait dans la rue carrément, qui était une sans domicile, une ancienne toxicomane qui était très agressive, très okay. violente. Et justement, ben, vu qu'elle avait, nulle part où habiter, eh bien, elle a décidé d'habiter chez Jen. Puis même si elle était dans cette espèce de milieu bizarre de gens qui croient être des personnages de Final Fantasy, ben, c'est toujours mieux qu'être dans la rue. Donc, oui, elle est restée quand même un certain temps. On voit que Mella, qui a offert son témoignage un peu plus tôt, c'est elle qui affirmait que Jen lui aurait siphonné le plus de 50 000 $.
C'est incroyable.
Bien, Mella, elle semblait être très en moyen, là. Elle semblait avoir des parents qui avaient beaucoup d'argent. L'argent ne semblait pas être un problème pour elle. Mais Jen a quand même réussi à aller accrocher quelqu'un comme ça parce que ça lui prend des finances dans son projet, là, dans son master plan, là. Donc, elle a réussi quand même à manipuler cette personne-là, mais on s'est rendu compte que ça a été un peu moins facile avec elle, parce que quand il est venu le temps, ben, elle les a expulsés, mais quand même, elle est restée quand même 2 ans avec elle.
Ben oui, puis elle est devenue, tu sais, elle travaillait dans une banque. Généralement, tu gagnes quand même bien ta vie quand tu travailles dans une banque. Elle est devenue stripteaseuse.
Oui, exactement.
Pour ça, tu sais, c'est... J'en reviens même pas comment quelqu'un peut se mettre.
Oui, le charisme.
Ben oui, c'est fou, là, l'influence qu'elle peut avoir. Je serais vraiment curieux de la rencontrer, Jen, dans la vie, pour essayer de sentir cette énergie-là qu'elle a, là. C'est...
Ah oui. Il demeure une trace, par contre, en fait, c'est une trace lors d'un Comic-Con, en fait, où il y avait eu une présentation là, du casting de Hannibal.
Oui, exact. Oui.
Et apparemment qu'elle... Ben, tu peux nous en parler, Seb. Elle aurait même eu une conversation par téléphone avec les gens présents sur place.
Oui, par Skype. En fait, c'était le Palais Fest en 2013. C'était tout de suite après la diffusion de la première saison d'Hannibal. Et c'était un rassemblement avec les acteurs et tout ça, dont un des acteurs principaux qui était là. Et elle, justement, il y a un de son crew qui est là, il monte son téléphone et c'était via Skype et on entend sa voix et elle est dans son personnage de Freddy et elle s'adresse à l'acteur, mais le personnage qui s'appelle Will Graham dans la série et de la manière qu'elle s'adresse à lui, c'est qu'elle s'adresse à lui comme si elle était Freddy et que l'acteur est vraiment le personnage de Will Graham. On le voit pas dans la vidéo, mais les témoignages disent que si on avait vu la face de l'acteur qui réagit étrangement à son discours, qu'elle a l'air tellement sincère puis qu'elle sort pas de son personnage, c'était quand même assez étrange. Mais c'était un des derniers témoignages, ou du moins qu'on entend sa vraie voix, là. Du moins, elle avait pas l'air distorsionnée ou quoi que ce soit, là.
Non, c'est quand même assez troublant. Elle semble vraiment jouer une scène.
Oui.
Tu sais, elle indique que justement, elle part en voyage. Elle est vraiment dans le personnage, là. Tu sais, probablement que les gens qui ont été très près de cette histoire-là peuvent aussi identifier peut-être des gens dont on vous a parlé aujourd'hui
dans ce plan
de caméra-là, parce que manifestement, il y a des amis de Jen qui tiennent le téléphone, qui sont autour, donc peut-être qu'il y a des gens de la Final Fantasy House qui étaient là à ce moment-là, mais c'est la seule fois qu'on a entendu la voix de Jen. Mon cher Seb, ça conclut un peu la ligne du temps de tout ça, du moins de ce qu'on sait jusqu'à présent. Ça a été tout un épisode à rechercher, je dirais. Moi, j'ai jusqu'à la seconde avant qu'on enregistre, je faisais des recherches. J'ai passé mes nuits à lire là-dessus. Vous allez voir, comme je vous ai dit, on vous a pas tout dit. Il y a encore énormément
de stock
disponible, donc n'hésitez pas à aller fouiller. On va vous donner des liens sur le groupe de discussion aussi, sur notre groupe de discussion sur Facebook.
Ouais.
On lance la discussion si vous voulez en discuter. Pour nous, c'était toute une histoire et je pense que même après l'épisode, je vais continuer à faire des recherches autour de ça. Mais tu sais, il y a un peu... La question qui demeure, en fait, c'est... Puis tu sais, je pense que c'est assez simple d'y répondre, mais est-ce que tout ça... C'est fabriqué, tu sais. Est-ce que toute cette histoire-là de Final Fantasy House, c'est un mythe de l'Internet ou un genre de creepypasta?
Ouais.
Ou est-ce que ça existe pour vrai? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ben, je me pose toujours la question, mais il y a tellement de témoignages, puis il y a quand même des vrais éléments, les photos, les voix, que j'ai tendance à y croire que c'est arrivé, cette histoire-là. T'sais, l'histoire n'a jamais été hébergée sur des sites de creepypasta. Puis il y a beaucoup de témoignages qui renforcent le tout. C'est certain que tout peut être virtuel, mais je sais pas. Il y a vraiment quelque chose d'étrange. Autant la personne qui a la chaîne YouTube que je vous parlais, Tattle Crime Expose, elle a subi quand même des menaces, même souvent de mort, de fans, de gens. Donc ça me lève quand même un drapeau sur le fait qu'elle existe pour vrai. Même les différents témoignages qui ont eu lieu de Zach, là, le personnage de Zach. Je sais pas, ça a l'air crédible quand même. Là. Moi, j'ai vraiment le feeling qu'elle existe pour vrai, et j'aimerais ça qu'elle soit coincée, qu'elle soit arrêtée, du moins. Puis toi, est-ce que c'est quoi ta perception par rapport à ça?
Ben, moi, j'ai l'impression qu'au départ, je me disais, hey, c'est vraiment une creepypasta bien écrite, en fait, avec les autres articles qui arrivaient un peu plus tard. Mais après, comme tu dis, il y a tellement d'intervenants et il y a tellement de preuves, même s'il n'y en a pas, c'est-à-dire des coïncidences qui se rejoignent avec... Sarah, la colocataire, Catherine Rain, qui se retrouverait à être Iris. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est vrai. Il semblerait que même, par exemple, le gars qui a posté sur Reddit à propos de son amie Lisa, qui était aux prises avec cette maison-là, même en 2016, apparemment qu'il s'est fait même lui aussi intimider sur Reddit, que sa publication a été effacée plusieurs fois. Donc, à chaque fois, il se cherchait une nouvelle sous-section pour poster ces informations-là. Okay. Donc, il semblerait vraiment que cette Jen ait beaucoup d'influence sur les communautés en ligne, là, en général, donc pas juste dans les univers où elle est intéressée. Et moi, vraiment, en fait, moi, j'ignorais complètement, lorsqu'on s'est lancé là-dedans, que des gens croyaient vraiment à être des réincarnations de personnages de jeux vidéo. C'est une croyance que je ne connaissais pas. Les Otherkin non plus. Je sais qu'il y a des fans d'Harry Potter qui sont très dédiés, ça on le sait, il y a certaines communautés qui sont très 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 dédiées, mais je savais pas, puis Hannibal non plus, là. Moi c'est une série, j'ai regardé quelques épisodes, mais sans plus, je pensais pas qu'il y avait vraiment un culte dédié sur cette série-là qui n'a eu que 3 saisons. Là.
Oui, exact.
Donc pour moi c'est vraiment très surprenant tout ça, ça nous incite en fait... Ça nous incite à porter vraiment attention aux gens avec qui on converse en ligne, hein, puis à faire attention aux gens qu'on rencontre, parce que pour moi, tous ces gens-là qui étaient dans la Final Fantasy House, c'est tous des bombes à retardement, incluant Jen, incluant Angel, qui apparemment était très violente aussi, et même René, qui a été manipulée à outrance, qui a été abusée dans tous les sens, peut-être une bombe à retardement. Si ces gens-là n'ont pas encore... fait de réels drames. Bon, on s'entend, pour moi, il y a plein de drames dans tout ça, là, mais je veux dire, il n'y a pas encore eu de meurtre ou de mort ou de suicide relié à ça. Ben, pour moi, c'est presque une question de temps, parce que ça se peut très bien que ça arrive à un certain moment. Là. Ça fait peur, en fait, quand on commence à croire que des jeux vidéo peuvent être, en fait, une autre dimension de la vie, mais que en fait c'est des choses qui sont créées par des humains.
Ben
mais
oui.
De croire qu'on peut être des réincarnations puis qu'un jeu vidéo peut avoir une incidence sur nos vies, ça peut vraiment faire peur. Puis on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Là. Pour moi, c'est je suis encore un peu terrifié de cette histoire-là. Puis je souhaite qu'on attrape ces gens-là, ou du moins qu'on les interroge le plus vite possible.
Ouais. Je suis comme toi en fait. Puis en fait, je suis comme toi, mais c'est la base de tout ça, c'est la maladie mentale. Tu sais, je peux pas croire. On n'est pas des spécialistes, mais Jen devait souffrir d'une certaine forme de schizophrénie.
Oui.
Tu sais, pour tellement croire que tu peux être une autre personne, ou du moins elle a subi des chocs traumatiques dans son enfance qui fait que tu n'es pas capable de t'accepter toi-même et d'être toi-même, puis que pour vivre, il faut que tu te personnifies en quelqu'un d'autre.
Mm-hmm.
Puis on dirait que vu que des personnages de fiction. Ben, ils sont déjà tout un peu créés et pré-créés pour toi, avec déjà une personnalité, un passé, des choses comme ça. On dirait que des gens comme elle, c'est plus facile. Tu te prends une personnalité, puis automatiquement, c'est comme si tu téléchargeais tout un background. Puis après ça, tu te l'imprègnes, comme un acteur peut faire quand il joue. Mais là, on est loin de jouer du jeu. Là.
Exactement. Ben ça fait pas mal le tour, mon Seb.
Ouais.
Si vous voulez en discuter avec nous, ce sera un plaisir de le faire. Vous savez où nous trouver, hein, sur Facebook, Distorsion Podcast. On vous invite à rejoindre notre groupe de discussion privé aussi, sur Instagram, Distorsion Podcast aussi, Twitter, Distorsion Pod, et sur YouTube aussi. On met nos podcasts sur YouTube. Donc, Distorsion Podcast, on est facile à trouver. Et sur ce, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nos distordus cette semaine?
On vous assure que Distorsion n'est pas une secte. Soyez sans crainte. Tous vos dons On les boit.
Direct dans le fridge.
Oh, oui.